Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Cinérama, émission sur le cinéma, l'actualité du cinéma. C'était le cas notamment la semaine dernière, puisqu'on a pu entendre Tony Gatliff qui sortait son film Geronimo. Alors cette semaine, en revanche, eh bien, ce sera plutôt les films qui sont sortis la semaine qui s'est écoulée. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Et toi, tu as vu deux de ces films qui sont sortis?
Oui, donc j'ai vu le Labyrinthe de Wes Ball et puis le nouveau film de Greg Araki, White Bird.
Et puis moi, eh bien, j'ai vu Balade entre les tombes de Scott Frank, plutôt un film décevant. Et puis, alors, on n'aura pas Tony Gatliff cette semaine, quoi qu'on aurait pu en rajouter une couche, hein, parce qu'on avait pu s'entretenir avec lui pendant 40 minutes. Mais nous aurons un autre invité, c'est Jean-François Bourgeot, qui est le directeur du Cinémètre Festival de Cinéma. C'est la 36e édition, c'est quand même eh bien, un gros festival. Alors, évidemment, ce n'est pas Cannes, mais c'est quand même un événement incontournable.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Le Labyrinthe, premier film d'un jeune réalisateur, Wes Ball. Thomas, un adolescent, se réveille amnésique dans un endroit étrange à ciel ouvert, mais entièrement muré. Une cinquantaine d'autres garçons vivent dans cette prison dorée où, une fois par mois, on leur apporte à la fois des vivres, mais aussi un nouvel occupant. Alors, ce lieu mystérieux donne accès à un labyrinthe, seule possibilité apparente de s'échapper, mais pour l'instant, personne n'a pu en sortir. Alors, d'autant que des créatures d'une forme un peu arachnéenne sont un peu les gardiens de cet endroit futuriste. Alors, elles m'ont fait penser un peu aux gros insectes belliqueux de Starship Troopers. Alors, bref, les jeunes hommes survivent comme ils peuvent dans ce monde dystopique, mais Thomas va tout bouleverser et il n'est peut-être pas là par hasard, tout comme Teresa, dernière personne à atterrir dans cet univers clos. On écoute la bande-annonce.
C'est quoi cet endroit ?
Bienvenue au bloc.
Qui nous a envoyés ici ?
On sait pas.
Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous croyez que je vais rester enfermé ici ?
Je t'interdis de te sauver !
Pourquoi vous me dites pas ce qu'il y a là-dedans ? C'est le labyrinthe. Tous les matins, quand les portes s'ouvrent, les coureurs s'engouffrent pour trouver la sortie. Personne n'a jamais survécu une seule nuit dans le labyrinthe. Qu'est-ce qui leur arrive ? On les appelle les griffeurs. On n'a rien à faire ici. Le labyrinthe a bien été construit par quelqu'un. C'est le moment de savoir contre qui on doit se battre.
Tu n'es pas comme les autres. Tu es curieux.
C'est quoi ce truc ? C'est le premier véritable indice que vous trouvez. On sait pas où ça peut nous conduire. C'est une fille.
Thomas.
Tout a changé depuis que tu t'es pointé chez nous.
Peut-être qu'on nous a envoyés pour une raison précise.
Les portes se ferment plus. Ils sont là.
Ils vont revenir pour nous massacrer jusqu'au dernier.
On va se battre pour sortir, même si on doit en mourir.
Le Labyrinthe, c'est donc la nouvelle saga qui risque de faire fureur après Hunger Games. Alors la recette est par ailleurs un peu identique, hein, même si l'histoire diffère. Mais on retrouve le même type de personnage ultra stéréotypé, dont le leader, incarnation à lui seul de l'espoir. Alors ce n'est pas Jennifer Lawrence, mais le débutant, ou presque, Dylan O'Brien, qui incarne cet élu juvénile avec beaucoup de conviction. Il ressemble d'ailleurs un peu à Kevin Bacon. On retrouve aussi un certain nombre de situations similaires, notamment dans l'aspect conflictuel des personnages. Mais au fond, on s'en fout, et surtout, il va falloir s'armer de patience, car cette adaptation d'une saga littéraire comporte 3 tomes, donc si vous me suivez bien, il y aura bien 3 films, donc à peu près ça finira dans 2 ans. Un par an, hein. Enfin, c'est à peu près ça. Hein. Si la logique est respectée. Hein. Alors la première demi-heure est intrigante. Hein. Le labyrinthe attise notre curiosité. Son architecture est impressionnante. Ce décor opaque, mystérieux, est vraiment l'attraction principale de ce film qui va progressivement s'avérer de plus en plus banal et consensuel au fur et à mesure que le récit progresse. Alors l'aspect déceptif vient en grande partie de ne pas intégrer ce labyrinthe comme élément moteur de l'intrigue. Il n'est finalement ce qu'il est, un élément de décor, un prétexte pour alimenter un blockbuster classique destiné aux ados et qui puise son inspiration dans quelques succès de ces dernières années. On pense pas mal à la série Lost, évidemment, pour les individus comme ça perdus, non pas sur une île, mais dans un endroit comme ça, clos, un peu post-apocalyptique, enfin, du moins, on s'en doute. Voilà, il y a une pincée de Battle Royale, et puis un petit côté cube aussi. Alors c'est un premier film, c'est totalement impersonnel, je crois que n'importe qui aurait pu se retrouver derrière la caméra. Voilà, c'est un gros blockbuster, mais pour accoucher d'un film sans autant grande ambition.
Alors ce qui peut faire peur, hein, parce que si on est parti pour une trilogie, comme tu l'annonces, ça veut dire que le second volet pourrait être encore moins bon, et voire le troisième moins bon.
Cela dit, la fin laisse augurer quelques surprises pour la suite, puisqu'il risque d'y avoir un changement, alors je ne veux rien dévoiler, mais un changement de cap complètement différent, et un changement d'univers surtout. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans ce labyrinthe. Et peut-être qu'on peut attendre du mieux pour la suite.
Hein. Labyrinthe est encore sur les écrans.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Nous passons maintenant à Balade entre les tombes de Scott Frank, qui est plutôt scénariste à la base. On lui doit notamment Hors d'atteinte et Minority Report, quoique ce sont plutôt des adaptations, finalement, de romans, en tout cas en vue d'un scénario. Alors voilà un film qui n'apportera pas grand-chose à la filmographie des films noirs policiers, calquant le récit sur un roman racontant les aventures de Matt Scudder, un détective privé sans licence. Balade entre les tombes est un conformisme redoutable pour qui cherche à se stimuler l'esprit en allant au cinéma. Alors parlons des personnages. Le film commence avec Liam Neeson, qui est loin d'être un padawan, hein, ça on le sait déjà. C'est même plutôt un flic qui a roulé sa bosse et mis des balles dans le chargeur. Alors on le voit flinguer à tout va en ouverture, et on se dit qu'il se retrouve détective privé sans plaque, on en perçoit forcément la raison. Donc Matt Scudder est détective sans licence, célibataire ou veuf, il va aux alcooliques anonymes, refuse la modernité, hein. Il y a un moment où il s'interroge sur Internet et le bug de l'an 2000, en tout cas il n'utilise jamais d'ordinateur, et on lui donne donc une affaire assez terrifiante.
Je dois vous avouer que c'est mon frère qui a insisté pour vous faire venir ici.
D'accord, je peux partir.
On a kidnappé ma femme.
Ça s'est passé quand ?
C'est arrivé hier.
Vous devriez prévenir le FBI.
J'ai besoin de vous.
Écoutez, monsieur Christo.
Kenny.
Kenny. Si vous attendez de moi que je porte la rançon où il le demande, ce n'est pas mon job.
Je les ai déjà payés.
Quand ?
La nuit dernière.
Et votre femme, où est-ce qu'elle est ?
Elle est morte. J'ai payé, mais ils l'ont quand même tué.
Histoire affreuse, hein. Continuons donc avec les personnages. Aux côtés du détective qui mène l'enquête, il trouvera sur son chemin, comme c'est mignon, un petit garçon black fantasmant sur les détectives privés. Comme ça tombe bien. En quelques séquences, il aura l'occasion de lui enseigner la vie, à ne pas faire les mêmes erreurs que lui. Alors quant aux méchants demandeurs de rançon et tueurs de femmes, ils sont présentés comme des dégénérés avides d'argent et de violence, on n'en saura pas plus. La violence sexuelle présente dans leurs méfaits les rend d'autant plus condamnables, et Matt Scudder, avec adresse et non pas avec violence, donc ça c'est un des aspects du film, va parvenir à débusquer ces odieux criminels. Alors quoi dire sur ce schéma bien simpliste ? Eh bien la scène finale est orchestrée avec les recommandations qu'on entend aux alcooliques anonymes, comme si le détective était en phase de rédemption. La mise en scène est plutôt lourdaude, la noirceur est envenimée par la mélancolie du personnage, et la pluie tombe souvent, voilà, donc ça ajoute, les effets climatiques s'ajoutent aux états d'âme, j'ai envie de dire. Et bien sûr, alors Liam Neeson s'en tire très bien, mais rien de bien exaltant dans ce Balade entre les tombes. C'est un film qui se regarde et qui malheureusement s'oublie une fois qu'on l'a vu.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Une interview aujourd'hui, celle de Jean-François Bourgeot pour nous parler du Cinémed. Cinémed, festival du cinéma méditerranéen, c'est la 36e édition. Ça se déroule alors à Montpellier, mais ça a une envergure régionale, voire nationale. Avec lui, on va parler de la nouvelle vague du cinéma grec, des coups de chapeau, le coup de chapeau, c'est comme ça qu'il l'appelle à l'actrice Lélia Becti, qui sera présente au festival. Il y aura d'autres invités et il va nous donner bien quelques éléments hein, sur les avant-premières, parce que c'est aussi un des avantages de ce festival de cinéma. Non seulement il y a une compétition officielle donc, des longs-métrages, des courts-métrages, des films documentaires et des films expérimentaux, mais en plus eh bien, il y a beaucoup d'avant-premières et puis bien de gros plans.
Alors le mot hommage est toujours un peu gênant quand on s'adresse à une jeune femme bien vivante de 30 ans. Les hommages, peut-être qu'il faudrait les laisser pour nos morts illustres ou nos vieux messieurs. Leïla Bekti, c'est vraiment un coup de chapeau qu'on veut lui rendre, d'abord parce qu'elle a déjà à 30 ans une belle filmographie, et c'est surtout quelqu'un qui incarne très très bien, je trouve, l'arrivée de la Méditerranée dans le cinéma français par son actorat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des thèmes méditerranéens, il peut y avoir une recherche de travail sur la civilisation méditerranéenne, sur ce qu'elle est, à travers le cinéma français, c'est déjà arrivé. Mais ce qui a rendu plus méditerranéen le film français depuis 30 à 40 ans, c'est évidemment l'arrivée des metteurs en scène du Maghreb et évidemment les acteurs ou actrices du Maghreb. Leïla Bekti, elle incarne à la fois cette beauté, cette réussite-là. Et ce qui m'a poussé à l'inviter cette année, c'est peut-être parce que dans son dernier film, Maintenant ou Jamais, c'est la première fois qu'elle ne s'appelle plus Leïla ou Aïcha ou Mona ou des choses comme ça. Elle s'appelle Juliette dans ce film-là. Et c'est intéressant parce que je pense que ça, on le doit à Serge Friedman qui a choisi ce prénom-là pour elle. Mais ça veut bien dire que Leïla Bekti, elle n'est plus, et depuis longtemps, ce qu'on peut appeler de manière péjorative l'arabe de service, c'est-à-dire quelque chose qui serait un emploi, qui serait une couleur sociologique, mais donc comme un emploi, comme on disait dans le théâtre avant, il y a celles qui font les bonnes, ceux qui font le cocu, etc., etc. Et elle est sortie depuis pas mal de temps de l'emploi, c'est une actrice à plein temps et tous azimuts, et elle a maintenant une très belle palette de jeux, je trouve. C'est quelqu'un qui peut aller vers la légèreté, vers la comédie, quelqu'un aussi qui peut aller vers le drame et la tragédie. Elle est juste sublime. Il se trouve que je la connais depuis plusieurs années. J'avais envie qu'elle vienne et elle sera là le premier week-end.
C'est eux qui voulaient que tu viennes travailler dans leur banque, non?
Quand t'arrives en dernier, tu pars le premier, voilà. Il n'y avait plus que 8 jours pour que je sois pu aller laisser. Ils ne doivent rien, Juliette.
Par ailleurs, je tiens à le dire, c'est un festival qui fait beaucoup de place aux jeunes. On va faire notamment une présentation assez intéressante, hein, et pas exhaustive, mais quand même assez complète de ce qu'on appelle la nouvelle vague du cinéma grec, avec des jeunes cinéastes grecs qui seront là, qui sont le produit de la crise économique. Qui sont aussi pour certains dans l'héritage d'Angelopoulos, qui est vraiment le grand, enfin une espèce de, c'est pas une statue du commandeur, mais c'était vraiment une stature, quoi. C'était vraiment quelqu'un d'important dans le cinéma grec qui lui donnait vraiment une grande noblesse, et qui est mort bêtement accidentellement lors d'un tournage, et qu'on avait invité il y a quelques années d'ailleurs à Cinémed. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment une crise économique, une crise même de... une crise morale, une crise, une perte de confiance en soi. Enfin, la Grèce, il faut savoir que l'état de la Grèce aujourd'hui, c'est quelque chose de terrible, quoi. Nous, on n'en a pas vraiment conscience. Je dis ça, j'exagère un peu, mais en France, on est embêté parce qu'on ne peut pas s'acheter la deuxième bagnole, quoi. Les Grecs, ils n'en sont pas là, quoi. Ils n'en sont vraiment pas là. Et ça produit quelque chose de différent sur un plan moral, esthétique, et donc le cinéma se renouvelle aussi par ça. Et c'est vrai que la perte de moyens financiers, comme elle arrive dans une époque où le cinéma coûte moins cher à fabriquer, du fait du numérique, le cinéma meurt pas. Et même, je dirais, il se régénère d'une certaine façon. On va montrer ça.
Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Bah, je sais pas, j'aurais dû dire quoi.
Rien du tout, tu dis ce que tu veux.
Qu'est-ce qui se passe? T'es pas vraiment méchante, en fait.
Mais j'ai choisi aussi d'ouvrir le festival avec le nouveau film de Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, qui réalise son deuxième long-métrage. Pareil, comme Leïla Bekti, une actrice de 30 ans. Elle a 30 ans, c'est la même génération. Le film, il est porté par deux jeunes actrices, Joséphine Japy et Lou Delage, qui sont vraiment formidables dans ce film-là. Et j'ai choisi aussi en ouverture un court-métrage qui parle de l'adolescence. C'est-à-dire que nous ouvrons le festival avec un regard très très aigu, un double regard très aigu sur l'adolescence et l'état d'adolescence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la crise de l'adolescence? Ou les crises? Ou les formes possibles de la crise d'adolescence? Sur les avant-premières aussi, moi je crois que c'est important d'attirer le grand public, et c'est important de montrer aussi la bonne santé du cinéma français. Je parlais de Mélanie Laurent, mais par exemple nous verrons aussi le nouveau film de François Ozon, qui sera là avec Romain Duris pour présenter Une Amie.
Ne dis rien à personne, que ça reste entre nous.
Je sais pas.
T'as rencontré quelqu'un?
Une femme, très douce. Elle me comprend, sans me juger.
être malade, David.
Je peux pas passer à côté de ma vie, Claire. C'est en moi.
Ça pourra pas durer, David. C'est une folie.
Je sais.
T'es un pervers. Il faut arrêter.
Il y a une comédie, mais vraiment une comédie familiale telle qu'on n'attend pas forcément un cinéma, qui s'appelle La Famille Bélier. Avec François Damiens, c'est Karine Viard qui joue un couple sourd et muet de naissance, qui ont un petit garçon qui est sourd et muet de naissance, mais une grande fille qui est jouée par une adolescente que connaissent bien les gens qui suivent les télécrochets musicaux. Je crois qu'elle était dans The Voice. Elle est très... très très craquante, cette jeune fille, elle sera là également. Et elle, non, elle n'est pas sourde muette de naissance, au contraire, et même elle a une voix de chanteuse. C'est un film, c'est vraiment une comédie qui montre un petit peu ce que c'est pour une jeune adolescente de traduire tout pour ses parents avec les signes.
Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalope panée. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir, il reste... Michel Sardou.
On peut peut-être essayer un truc plus moderne.
Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique.
On va faire aussi des petites séances spéciales délicieuses, comme par exemple repasser L'homme qui aimait les femmes. Alors L'homme qui aimait les femmes tournait à Montpellier. Si j'ai choisi de le repasser cette année, c'est parce qu'il y a un cinéaste de la région qui s'appelle Yann Sinik, qui est en train de réaliser un documentaire sur ce tournage à Montpellier. Donc, il a convoqué évidemment des figurants, des gens, des témoins de l'époque pour faire ce film qui n'est pas prêt, qui sera prêt en janvier. On en verra des extraits, mais on repassera le film de Truffaut. Et j'ai demandé à Brigitte Fosset, qui est rôle principal féminin du film, de venir parler de ce tournage à Montpellier du film de Truffaut.
Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but. Peut-être vers un rendez-vous. Il y a celles qui se promènent avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes.
C'était Jean-François Bourgeot, le directeur du Cinémet, Festival du cinéma méditerranéen, un festival qui se déroule du 25 octobre au 1er novembre, c'est à Montpellier, comme eh bien, depuis 36 ans. Il n'en a pas parlé, eh bien, il y aura aussi un gros plan sur Antonio Pietrangeli, l'Italien, sur un réalisateur, Luis Garcia Berlanga, ça c'est du côté de l'Espagne, mais c'est un réalisateur qui est mort. Alors, parmi les morts illustres, il y aura aussi un gros plan sur Daniel Toscan Duplantier, producteur estampillé méditerranéen, selon Jean-François Bourgeot. Et puis, il y aura aussi la journée du scénario avec Tonino Benacquista, qui est notamment le scénariste de certains films de Audiard et notamment de Battre mon cœur s'est arrêté. On peut aussi parler d'une nuit en enfer, Manu. Hein. C'est une nuit un peu particulière qui met en avant la série B ou la série Z. Et là, c'est plutôt de la série Z.
C'est plutôt de la série Z puisque c'est une nuit qui va être consacrée à Eurociné, donc des productions françaises particulièrement fauchées qui ont été assez prolifiques, on va dire, dans les années 70, notamment avec certains films de Jess Franco, et puis un film très très cool qui risque d'être programmé, puisque je n'ai pas vu la programmation officielle, c'est Le Lac des Morts Vivants.
Merci Manu pour ces précisions, et si vous voulez d'autres informations sur ce Cinémède, puisqu'il y aura à peu près 200 films qui seront projetés, donc c'est beaucoup, on ne peut pas évidemment en parler, c'est cinemed.tm.fr.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Nous écoutons un extrait de la musique de White Bird qui est préparée par les Cocteau Twins, hein, c'est ça Manu?
Oui, et particulièrement le guitariste et compositeur Robin Guthrie. après l'étourdissant Kaboom, hein, Greg Araki revient avec un nouveau film annoncé comme plus sérieux, plus profond, dans la lignée de son magnifique Mysterious Skin. White Bird est un film étrange entre mélodrame pop, teen movie et thriller ironique. Une sorte de Twin Peaks léger et gracieux, alors sans l'esprit retors de David Lynch, hein, et sans le génie aussi malheureusement. Alors l'action se passe en 1988 au cœur d'une Amérique pavillonnaire, lisse et sans histoire. Hein. Kate Connors, une ado de 17 ans, ne s'émeut pas le jour où sa mère disparaît du giron familial. Elle continue à vivre normalement avec son père, hein, peu affectée par cette absence. Pourtant, elle va voir un psy, puis ses amis s'inquiètent pour elle. Les recherches n'ont mené à rien, cela dit, donc affaire classée. Alors, 3 ans après, Kate commence à se poser des questions. Elle fait des cauchemars récurrents et très symboliques, car si on y réfléchit bien a posteriori, ils sont véritablement la clé du film. Alors, véritable boîte de Pandore qui l'amène à revenir voir son père et ses amis, ainsi que le privé chargé de l'enquête à l'époque. Et elle commence à soupçonner l'impensable. Alors Wild Bird, au-delà du mix de genres habilement dosés, est surtout un récit initiatique vers l'âge adulte, le passage de l'innocence où tout coule de source, alors vers une remise en cause de ses propres fondements et puis de ses valeurs. Mais une impression déjà vue dessert quand même un peu le propos. Hein. L'esthétique vintage rappelle beaucoup un film comme Donnie Darko pour le côté étrange. Et l'ambiance faussement joyeuse évoque aussi le Loin du paradis de Todd Haynes. Alors il y a aussi un petit côté série télé qui amoindrit, à mon avis, la pertinence du propos. Hein. Donc derrière la surface d'un film joli, d'un exercice de style un peu superficiel, se cache néanmoins un beau film triste, hanté par la perte, le tout porté par une très très belle photographie, immergeant le spectateur dans une sorte de rêve éveillé. Alors parallèlement à l'histoire de la jeune fille, Greg Araki dessine aussi un magnifique portrait de ménagère de plus de 40 ans au bord de la rupture. Alors ce fantôme de mère est incarné par une Eva Green méconnaissable, tour à tour inquiétante et pathétique à travers des flashbacks qui font limite froid dans le dos. Alors plus le film avance, plus on se dit qu'elle va se faire assassiner, qu'elle a dû se faire assassiner, à l'instar de la fameuse Laura Palmer dans Twin Peaks. Alors la référence n'est pas évidente, mais il y a quand même l'apparition vers la fin du film de l'actrice de Twin Peaks, Cheryl Finn, qui joue un petit rôle, la nouvelle petite amie du père de l'héroïne. Donc c'est à mon avis, c'est une référence qui est clairement assumée et clairement évidente. Hein. C'est vraiment pas un hasard. Alors, il y a aussi une chute finale, qui est surprenante et en même temps, guère étonnante si on connaît bien le travail d'Araki et son goût pour la provocation. Alors, elle est, me semble un peu artificielle, pour être honnête, un peu too much. Pas vraiment choquante, mais elle agit comme un gag, une pirouette surlignant que l'auteur de The Doom Generation n'a rien perdu de son ironie. Mais il a peut-être perdu un petit peu de sa folie, de sa fantaisie. La maturité n'est peut-être pas toujours un bon signe. Hein, et je préfère malgré tout un film foutraque comme Kaboom que ce White Bird que je trouve parfois très beau, mais aussi peut-être un peu lisse, même si c'est volontaire. Enfin, je ne suis pas convaincu à 100%. Hein.
Et maintenant, dans la série Polar des années 80, c'est un polar de Michel Deville et c'est Péril en la demeure.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
David Orphée, jeune homme naïf, se voit proposer de donner des cours de guitare à une jeune fille, Viviane Tomstey, donc fille d'un couple plus qu'aisé. Alors l'épouse, Julia, fait rapidement des avances au valeureux prof de guitare qui succombe très vite à ses charmes. Alors une banale histoire d'adultère se profile, rien de neuf à l'horizon. Mais des personnages mystérieux gravitent autour de David et Julia. D'abord le mari, trop avenant pour être totalement honnête. Ensuite, la voisine des Tomstey, c'est le nom de famille de cette famille, donc Edwige, qui s'intéresse de près à David et s'amuse à le décontenancer par des allusions sexuelles notamment. Enfin, le personnage peut-être le plus étrange du film, Daniel Forrest, tueur à gages solitaire qui sauve David d'une agression et lui avoue qu'il a été embauché pour tuer le mari et récupérer un microfilm. Et puis tout bascule vraiment le jour où David reçoit une cassette vidéo relatant ses exploits avec Julia. On écoute un extrait.
Oh, Alain, ne vous dites plus, racontez-moi.
C'était bien un film porno.
Vous me montrez ?
Quelqu'un a eu l'idée de me filmer dans ma vie très privée.
Vous tout seul ?
Non. J'avais une partenaire.
Chut, laissez-moi deviner. Une femme mariée ?
Ouais.
Classique.
Soit c'est le mari.
Soit c'est pas le mari.
Ben, je voulais dire, les détraqués, ça existe. J'en connais même un depuis peu de temps qui...
Amenez-le-moi.
Soit c'est vous. Excusez-moi. Non, je passe.
Ne vous excusez pas, c'est bien moi. J'aime assez m'amuser.
Vous parlez sérieusement?
Et vous?
Je ne sais pas.
Alors moi non plus. À propos de cassette, c'est celle que vous m'aviez promise.
Oh, pardon.
Vous n'avez pas eu le temps?
Non. Je crois que je suis un peu saoul.
Et un peu fou. Je m'en fous. Sauvez-vous.
4 ans après l'excellent Eau profonde avec une Isabelle Huppert impériale, Michel Deville revient au thriller psychologique. Après avoir adapté Patricia Highsmith, il s'empare d'un gros succès en librairie, Sur la terre comme au ciel de René Belletto, et réalise sans doute l'un de ses plus gros succès publics et critiques de sa carrière. Alors Péril en la demeure commence comme une comédie dramatique fortement teintée d'érotisme. C'est un peu le dada de Deville par ailleurs, hein, grand érotomane qui aime déshabiller ses actrices et ses acteurs dans des exercices de style souvent très brillants. Les scènes d'amour entre Christophe Malavoy et Nicole Garcia sont excellemment mises en scène grâce à un montage inventif et des dispositifs scénographiques souvent ingénieux. Alors Deville filme la nudité comme un peintre, un esthète fasciné par les corps qui se mélangent. Le récit évolue ensuite naturellement vers le film noir classique avec les figures imposées du mari, de la femme et de l'amant. Et de 3 autres personnages troubles gravitant autour du trio. L'envoûtement suscité par une première partie sensuelle et très chorégraphique laisse place à un polar efficace, une mécanique ultra stylisée au point d'être un peu trop voyante. En effet, les effets de montage paraissent too much et les dialogues très écrits souffrent d'un aspect littéraire appuyé et la réalisation théâtralise à l'excès les situations. Alors le résultat est saisissant et baigne dans une atmosphère onirique assez ludique, mais il y a une distanciation, un humour décalé qui empêche d'adhérer totalement à ce film sophistiqué mais parfois un peu vain. Le sort des personnages finit par nous indifférer car au fond Deville filme tout ça comme un jeu, un marivaudage de plus où rien n'a véritablement de conséquences. Les enjeux sont minimes même si la moralité et l'humour à froid finissent par emporter l'adhésion. Alors Péril en la demeure est toutefois un très bon film, hein, un exemple parfait d'un cinéma formaliste tout entier dédié à sa mise en scène, devenant ainsi l'attraction principale au détriment d'une intrigue qui accumule les situations parfois rocambolesques et absurdes. Mais la qualité formelle du film fait qu'on prend un vrai, vrai plaisir à regarder ce film. Et puis finalement, Deville a été un très bon auteur de polar, puisque ce n'est pas le seul qu'il a réalisé, donc j'avais cité Eau profonde. Et puis aussi, il y a eu un autre film avec Patrick Bruel qui s'appelait Toute peine confondue, qui était un de ses meilleurs films de sa carrière. Alors on peut juste rajouter que les acteurs sont impeccables. Il y a aussi Piccoli dans le rôle du mari qui est vraiment
Boringer.
Et Boringer qui est vraiment
jeune.
Et puis il a un rôle vraiment très très ambigu, très original, de tueur à gages. On ne sait pas très bien ce qu'il vient faire là. Et c'est assez étonnant. Voilà. Donc je conseille de revoir ce film qui fait partie pour moi des Deville les plus intéressants.
Et c'est en DVD.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama, émission de cinéma. La semaine prochaine, eh bien, nous aurons une interview, celle du réalisateur Cédric Kahn, pour son film Vie sauvage. À bientôt, Manu.
À bientôt.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.